Bienvenue à tous dans ce module 2, consacré toujours à l'initiation au code pour les vrais débutants, mais vous n'êtes plus totalement des vrais débutants, car dans le module 1, on a commencé effectivement à regarder en détail un certain nombre de concepts fondamentaux qui sont liés au développement. Et entre autres, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, on sait maintenant ce que c'est qu'une variable, donc un emplacement qui va nous permettre de stocker des données, puis derrière, d'être capable de les manipuler. On a vu également une notion de typage, c'est-à-dire que associé à la variable, on va préciser si c'est bien du texte qui est associé, si c'est une valeur numérique. Donc entre autres, on a commencé à voir ces mots-clés comme string pour du texte et int pour une valeur numérique entière. Et puis on a également utilisé nos premières méthodes avec notamment console.readline et console.writeline pour écrire et lire dans le flux de l'invite de commande. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on a également commencé à regarder ce qui se passait côté algorithme avec entre autres notre premier code conditionnel. On a utilisé if-else. Et puis, finalement, vous avez créé votre première application console et à la fin du processus, on a compilé notre code, on l'a généré pour derrière créer un exécutable. Et pour ça, on a utilisé soit le bouton démarrer, soit le raccourci clavier F5 qui nous permet de lancer notre application directement depuis Visual Studio. Mais on allait voir que finalement, cet exécutable, c'est un fichier avec une extension .exe et on est capable également de le lancer à la main directement depuis l'explorateur de fichiers. Et pour finir, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait côté débugage, avec l'utilisation du mode pas à pas. Donc on a mis un point d'arrêt et puis on a utilisé F10 pour regarder étape par étape comment notre code allait se comporter. Alors on va toujours continuer dans la même voie et on va être capable maintenant de créer notre application console, l'application promise, le nombre mystère, pour derrière mettre en œuvre un petit peu tout ce qu'on a appris, puis aller un petit peu plus loin. Alors pour rappel, voici la fameuse application le nombre mystère, donc une application en mode console, et c'est cette application qu'on va mettre en œuvre durant ce module 2. Alors le concept, c'est simplement que l'application va générer un nombre aléatoire entre 1 et 20, et ensuite c'est à l'utilisateur d'être capable de découvrir, grâce à des indices de l'application, si c'est plus ou si c'est moins, quel est le chiffre exact. Donc on va par exemple préciser 10, l'application va nous dire c'est plus, on va dire 15, c'est plus, 17, c'est plus, 19, c'est plus, je suis tombé sur 20, bravo, j'ai gagné. Donc cette application, depuis le module 1, doit vous paraître maintenant un petit peu plus familière. On voit bien qu'il y a des consoles readline, des consoles writeline, et on voit bien qu'il y a également un certain nombre de conditions, donc il y a des if-else, et il y a d'autres petites choses en termes d'algorithmique qui vont arriver dans ce cours numéro 2, et qu'on va aller regarder maintenant un peu plus en détail. Donc sans plus attendre, je vous propose de rajouter un nouveau projet à notre solution Getting Started, dans lequel on va effectivement coder le nombre mystère. Alors, pour ce faire, vous allez sur Solution Getting Started, vous utilisez le bouton droit de la souris et vous faites Ajouter nouveau projet. Faites bien attention d'être dans la section Visual C Sharp, Windows, Application console, et on va nommer notre application Nombre Mystère console. Faites ensuite OK et ça va nous rajouter notre projet dans cette solution Getting Started. Alors on peut voir qu'on a les deux projets, donc SayMyName Nombre Mystère console, et SayMyName apparaît en gras. C'est tout simplement qu'il ne peut y avoir qu'un seul projet défini comme projet de démarrage. Donc si je fais démarrer, c'est le projet qu'on a réalisé tout à l'heure, SayMyName, qui est pris en compte. Et si je veux que ce soit le nombre mystère console, il faut que j'utilise le menu contextuel et sur le projet, je le définis comme projet de démarrage. Et là, il va apparaître en gras Et c'est bien lui qui va être pris en compte quand j'appuie sur démarrer. Donc là, vu que c'est une application console vide, théoriquement, voilà, j'ai ma fenêtre console qui apparaît et qui disparaît exactement de la même manière qu'on l'avait tout à l'heure dans le module 1. Donc je peux, voilà, fermer un petit peu ces myname dans le sens où on ne va pas le réutiliser. Si vous préférez utiliser tout de suite un projet complètement vierge et le mettre dans une nouvelle solution, eh bien rien ne vous empêche d'utiliser la même philosophie qu'on a eue tout à l'heure dans le module 1, c'est-à-dire d'aller dans Fichier, Nouveau projet et de créer un nouveau projet console, voilà, de base. Sinon, on a exactement, eh bien, le même projet que pour CMyName avec programme.cs et notre point d'entrée main dans lequel on va pouvoir écrire notre code. Alors, pour le nombre mystère, la première chose à faire dans l'application, c'est être capable de générer un nombre aléatoire entre 1 et 20. Et une chose, voilà, qu'on ne vous dit pas forcément, mais c'est que les développeurs ne savent pas tout, loin de là. Et donc, la plupart du temps, on ne connaît pas l'ensemble des API qui sont proposées par le système. Et c'est dans la documentation, donc dans la documentation de votre moteur de recherche préféré, qu'on va se tourner pour être capable de trouver quelle est la classe, quel est l'objet qui va nous permettre de créer un nombre aléatoire entre 1 et 20. Donc, c'est à vous de travailler. Je vous laisse aller dans le moteur de recherche que vous préférez et essayer de trouver par vous-même l'API en C# qui permette de générer une valeur aléatoire. Alors, on va regarder ensemble la solution. Vous pouvez aller dans Bing, par exemple, et vous faites tout simplement valeur aléatoire. Je l'avais déjà tapé en C#. Alors, on va tomber sur pas mal de choses. Tout n'est pas forcément intéressant, mais ce qui est plus particulièrement intéressant, c'est de trouver dans la documentation généralement quelque chose qui pointe sur msdn.microsoft.com. Alors, pourquoi? Tout simplement car MSDN veut dire Microsoft Developer Network et c'est la documentation officielle proposée par Microsoft sur ces API. Et si on va sur Random Class, on tombe sur Représente un générateur de nombres pseudo-aléatoires. On est pas mal, je pense qu'on se rapproche de la solution. Et vous pouvez voir qu'il y a l'ensemble des méthodes qui sont proposées par cette classe. Et entre autres, il y a une méthode, voilà, qui s'appelle Next, retourne un nombre aléatoire entier non négatif. Et il y a même mieux, il y a cette deuxième signature retourne un nombre aléatoire entier non négatif inférieur au nombre maximal spécifié. Donc, si je fais next 20, ça va me donner une valeur entre 0 et 19. Voilà, parce que c'est vraiment inférieur au nombre maximal spécifié. Alors, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc, si je retourne dans mon code, je peux très bien faire int random égale new random et on a bien la méthode next et si je fais 20 ça va me retourner une valeur entre 0 et 19. Alors pourquoi je mets pas 21? 21 me retournera une valeur entre 0 et 20 mais je veux pas du 0 donc je vais simplement utiliser entre 0 et 19 et je vais faire plus 1. Et donc comme ça, j'aurai une valeur entre 1 et 20. Alors, on peut regarder si ça fonctionne comme on souhaite. Et donc, rien ne vous empêche de mettre un point d'arrêt. Maintenant que vous connaissez la notion de point d'arrêt, vous faites démarrer. Et on peut regarder la valeur qui a été générée. Donc, c'est bien 18. Donc, on commence à avoir quelque chose qui est intéressant. On a généré notre valeur aléatoire. Alors, on a franchi une première étape en créant, en générant un nombre aléatoire entre 1 et 20. Et pour ce faire, on a utilisé donc une nouvelle classe qui s'appelle random, une nouvelle méthode qui s'appelle next, et qui me permet donc de récupérer cette valeur. Alors, vous avez peut-être fait attention à ça, mais effectivement, on a utilisé un nouvel opérateur qui s'appelle new. Et je ne vais pas rentrer pour le moment trop dans les détails. C'est un petit peu différent de l'approche qu'on a utilisée pour console.readline et writeline. Voilà, ce que je vous propose, c'est que pour le moment, vous mettez ça un petit peu de côté. Et on promis, je vous explique en fin de module exactement voilà, qu'est-ce qui change quand on utilise cet opérateur new. Alors, maintenant qu'on a généré notre valeur aléatoire, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur saisisse une valeur entre 1 et 20 pour être capable de la comparer à cette valeur random. Alors, je vous laisse y réfléchir quelques instants, donc n'hésitez pas à mettre sur pause, mais vous avez déjà, pour le moment, dans le module 1, utilisé cette manière de faire déjà plusieurs fois. Donc, comment tout simplement demander à l'utilisateur de saisir cette valeur et puis comment la récupérer. Alors, on utilise bien WriteLine, donc vous allez pouvoir lui dire saisissez un nombre entre 1 et 20, et on utilise encore la méthode ReadLine pour récupérer la valeur sous forme de texte qui a été saisie par l'utilisateur. Et donc, cette valeur qu'on a récupérée, picked, on va pouvoir la comparer avec random. Mais on a le même problème que tout à l'heure. La valeur picked, donc de notre variable, est du texte, si c'est une chaîne de caractères, il va falloir la comparer avec une variable qui est en valeur numérique. Donc on a le même problème et on a eh bien, la même solution, sauf que la solution qu'on avait tout à l'heure, donc si vous vous rappelez, c'est int.parse, pour être capable de convertir du texte en entier, eh bien on a vu qu'elle avait un petit défaut, hein, dans le sens où eh bien, si vous tapez une valeur qui n'est pas une valeur numérique, donc par exemple test ou toto, et qu'on essaye de la convertir sous forme d'entier, on a une exception et on avait généré un bug. Alors, il y a une méthode un tout petit peu plus avancée que je vous propose de découvrir tout de suite, qui s'appelle tryParse, et qui va nous permettre de tester si cette conversion est possible, donc entre du texte et une valeur entière, et qui a une signature un petit peu particulière. Donc, je vous invite à regarder tout de suite quelle est la signature de tryParse et comment on l'utilise véritablement. Essayez de comprendre un petit peu la philosophie de cette méthode, et puis je vous retrouve dans Visual Studio pour vous expliquer plus en détail. Alors, on retrouve Visual Studio, et puis j'ai directement fait un copier-coller des lignes qu'on avait dans notre slide. Voilà, j'étais un petit peu feignant. Et pour réaliser notre application, donc on utilise un console WriteLine pour demander à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 20. Et tout simplement, après, on récupère la valeur qui a été saisie par l'utilisateur grâce à la méthode ReadLine. Donc, la valeur qui va être retournée est une valeur de chaîne de chaîne de caractères, c'est du texte. Et on souhaite derrière eh bien, pouvoir comparer picked à la valeur random. Et on a bien notre problématique de conversion de cette valeur picked en valeur numérique. Donc on a souhaité ne pas utiliser parse et on utilise tryParse à la place. Alors l'exercice qui était demandé et proposé, c'était de vérifier un petit peu la signature de tryParse. Donc pour valider et pour regarder cette signature, eh bien il suffit de positionner le curseur sur tryParse et de regarder la documentation qui est associée. Alors ce qu'on peut voir assez facilement, c'est que tryParse va retourner une valeur de type booléen, donc bool. Donc booléen, c'est simplement une valeur qui va être vraie ou fausse. Donc si la conversion est possible, ça va retourner vrai. Si la conversion n'est pas possible, ça retourne faux. Donc j'ai envie de profiter de cette information. Donc je crée une nouvelle variable isNumérique égale int.tryParse. Donc ça va être pratique car grâce à cette valeur, je vais être capable eh bien, de valider que l'utilisateur a bien donné une valeur qui est valable, valide. Et si cette valeur n'est pas valide, eh bien, je vais pouvoir lui redemander. Et donc là, on va introduire une nouvelle notion qui va être une notion de boucle. Mais juste avant d'introduire cette notion, je vais revenir sur tryParse. Donc tryParse va avoir deux arguments. Il y a une valeur qui va être la chaîne d'entrée, donc picked. Et là, on a une syntaxe un peu particulière, je vais encore faire l'impasse dessus, mais qui est une valeur de sortie. Voilà, qui s'appelle PickNum. Et donc j'ai déclaré ici eh bien, une nouvelle variable. Donc là, je l'ai juste déclaré. vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire une affectation parce qu'à chaque fois j'utilisais égal derrière, mais on peut simplement déclarer une variable. Et si eh bien, ma conversion est correcte et qu'elle est valide, eh bien, je vais avoir la valeur de sortie sous forme d'un entier, non pas d'une chaîne de caractères, qui va être positionnée dans cette nouvelle variable. PicNum. Donc out, c'est pour dire que c'est une variable de sortie. Voilà, mais pour le moment, je ne vous explique pas tous les détails qui sont derrière. En tout cas, valeur d'entrée, valeur de sortie. Et isNumérique qui nous permet de savoir si la conversion est effective ou pas. Et maintenant, on va passer à une notion donc de boucle pour faire le test tant que l'utilisateur n'a pas rentré une donnée valide. Le point important donc à comprendre avec TryParse, c'est qu'il retourne, on récupère un booléen donc qui nous permet de valider si la conversion est possible ou non. Et donc, en complément de cette information, eh bien maintenant, on va être capable, grâce à une nouvelle notion que je vais vous apprendre dans un instant, eh bien de tester à chaque fois, et tant que la valeur eh bien, n'est pas correcte, de redemander à l'utilisateur de saisir une nouvelle valeur. Alors, on va voir maintenant la notion de boucle. Et la notion de boucle passe par un nouveau mot-clé qui s'appelle while, donc qui veut dire tant que. Et dans while, on va, comme pour le if, positionner une condition. Donc tant que cette condition est vraie, donc tant que isNumérique est faux, on va pouvoir rentrer dans une boucle et puis trouver du code qu'il va falloir écrire à l'intérieur. Donc, notez que là, j'utilise isNumérique double égale false. Il y a une différence entre l'affectation et le test. Donc, l'affectation, on n'utilisera qu'un seul égal. Par contre, si vous souhaitez tester si deux valeurs sont égales l'une avec l'autre, donc dans une condition par exemple, on utilise un double égal. Voilà, c'est une syntaxe qui est liée et qui est propre au C#. Donc, à vous. Trouvez le code à rajouter dans cette boucle pour proposer ben, tout simplement de ressaisir la chaîne de caractères si potentiellement ce n'est pas une valeur numérique. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et je vous propose la solution dans quelques secondes. Alors, ça se complique un petit peu, pas mal de lignes de code. On retrouve console.writeLine pour dire à l'utilisateur, eh bien, tu t'es trompé, ce n'est pas une valeur numérique, ce n'est pas un nombre, donc réessaye. Et puis, on va après réutiliser readLine pour ressaisir, ben, pour récupérer la valeur qui a été saisie, et TryParse pour revalider que c'est bien une valeur numérique. Et tant que la valeur n'est pas numérique, donc tant que isNumérique égale false, on reste dans la même boucle, donc on retourne et de manière complètement perpétuelle. On va revenir dans la boucle et on restera dans la boucle tant que l'utilisateur n'aura pas saisi enfin une valeur qui est numérique. Alors, je vous propose de tester ça directement dans Visual Studio et on va valider ligne par ligne comment la boucle fonctionne. J'ai saisi le code de la boucle directement dans Visual Studio. Donc on retrouve notre boucle while avec la condition isNumérique égale false. Donc tant que isNumérique est faux, on retourne dans notre boucle. Et pour vous démontrer que ça fonctionne bien, on va repositionner un point d'arrêt sur la boucle directement. Et on va démarrer notre application. Alors, je vais pouvoir enfin saisir une valeur, donc je vais saisir 10 par exemple. Et j'arrive sur mon point d'arrêt. Donc, je vois ici que donc, dans readLine, j'ai une valeur qui s'appelle 10, qui est une chaîne de caractères, qui a été passée en entrée de TryParse. Et TryParse me confirme bien que c'est une valeur numérique. Donc, j'ai une condition vraie qui est retournée par TryParse. Et dans la valeur de sortie PicNum, si on regarde, eh bien, il m'a bien converti ma chaîne de caractères sous forme d'une valeur numérique. Donc on peut voir que c'est une chaîne de caractères ici, car la valeur 10 est encapsulée entre des doubles guillemets, des doubles quotes. Alors que là, si on regarde bien, pardon, ici, sur PicNum, on voit bien qu'il n'y a pas ces doubles guillemets qui entourent la valeur, donc c'est bien une valeur numérique. Donc là, je rentre dans la boucle et la première chose qu'on va faire, c'est vérifier que la condition est valide ou pas. Donc, pour pouvoir rentrer dans cette boucle, il faut que cette condition soit vraie, c'est-à-dire qu'il faut que isNumérique soit égal à faux. Et isNumérique est égal à true. Donc, théoriquement, on n'a pas à rentrer dans la boucle. Et si je fais F10, ou pas à pas principal, eh bien, je sors directement car je n'ai absolument pas à rentrer dans la boucle. Alors, on va faire continuer et je vais relancer encore mon application. Et cette fois-ci, je vais mettre test. Donc, la même chose. En revanche, donc là, ma valeur picked est égale à test. PicNum en sortie, eh bien, c'est la valeur par défaut, c'est 0. Et on voit que isNumérique est égal à false. Alors là, j'ai tout ce qu'il faut pour rentrer dans la boucle, car la condition est vraie, c'est-à-dire isNumérique est bien égal à faux. Et là, si je continue à faire F10, je vais rentrer à l'intérieur du code. Donc, je vais bien avoir console.WriteLine. Oups, donc si je vais voir, oups, il ne s'agit pas d'un nombre, essaye encore. Là, je peux encore faire F10. Et là, il attend. Voilà. Donc là, je vais pouvoir lui mettre 10. La valeur retournée, c'est bien 10. Maintenant, isNumérique est égal à true. Donc on va revalider la condition. Et cette fois-ci, vu que isNumérique n'est pas égal à false, eh bien, je vais sortir de la boucle. Tout simplement, bravo, vous venez de réaliser votre premier code avec une boucle à l'intérieur et ça va être très pratique pour la suite des événements. Alors, juste avant de finir avec cette portion de code, je voulais bien vous préciser que là, on voit bien que pict et isNumérique, eh bien, je ne les ai pas typés avec un int ou un string préalable ou un bool, on va dire. C'est normal car il y a vraiment deux choses à considérer. On l'a déjà vu en partie, mais je vous le reprécise. Dans ce genre d'instruction, j'ai deux choses en une. C'est que là, je fais une déclaration et ensuite je fais une affectation. Donc vous pouvez très bien réaliser les deux opérations séparément. Donc je peux très bien faire isNumérique. Voilà, je peux très bien séparer ce code-là en deux éléments. Donc la déclaration de notre variable isNumérique et ensuite l'affectation de notre variable isNumérique. Donc c'est pour ça que quand je rentre dans cette portion de code, là je ne redéclare plus les variables pict et isNumérique car ça a été fait préalablement. Je ne fais que de l'affectation. Donc on ne déclare qu'une seule fois la variable et après on va aller par contre être capable de l'affecter plusieurs fois dans du code en fonction du changement des événements. Donc voilà, gardez à l'esprit que vous avez d'un côté la déclaration de la variable et de l'autre côté l'affectation ou plusieurs affectations séparées de cette même variable. On a franchi une nouvelle étape, on est maintenant sûr que l'utilisateur va saisir une valeur qui est bien numérique, et tant qu'elle n'est pas numérique, eh bien, on va lui redemander de saisir une valeur. Donc à la fin des opérations, on retourne une valeur qui est bien une valeur entière. Alors, on ne fait pas de test en revanche pour le moment pour savoir si la valeur est bien comprise entre 1 et 20. Voilà, ça c'est un exercice pour vous qu'on ne va pas faire dans ce code-là, mais je vous invite à le faire. N'hésitez pas à proposer en plus une vérification sur le fait que la valeur est bien comprise entre 1 et 20. Vous avez tous les éléments en votre possession pour le faire. Et si c'est en dehors du scope 1 à 20, et ben de redemander également à saisir une valeur. Alors en revanche, ce que je vais faire là, dans l'immédiat, c'est vous montrer qu'on peut optimiser un tout petit peu ce code. Là, j'utilise entre autres eh bien, une variable qui s'appelle isNumérique et je l'utilise dans ma condition. Donc, je vais enlever le point d'arrêt. Mais finalement, cette variable, eh bien, on va pouvoir s'en passer. C'est-à-dire que le code ici que j'utilise, qui me retourne donc cette variable isNumérique, rien ne m'empêche eh bien, de l'utiliser à la place. Donc, ça va me permettre de supprimer ces deux lignes. Ça me donne exactement la même chose, sauf que c'est un avantage, c'est que là, quand je rentre dans la boucle, j'affiche le oups, il ne s'agit pas d'un nombre. Ensuite, je lui redemande de saisir une valeur, et je la récupère. Mais vu qu'on va réévaluer systématiquement cette valeur dans la boucle while, eh bien, je peux également supprimer cette dernière ligne. Donc j'ai réalisé exactement la même opération préalablement, sauf que le code est plus synthétique, et quand le code est plus synthétique, eh bien, il est plus lisible. Et en termes de développement, on aime bien ça quand le code est lisible. Bilan de la situation, vous avez donc deux manières différentes de procéder. Soit vous conservez l'utilisation d'une variable isNumérique pour créer votre boucle, soit vous utilisez une version un petit peu plus synthétique. Voilà, c'est libre à vous. Mais dans la deuxième version, finalement, vu qu'on évite certaines instructions inutiles, eh bien, votre code sera un tout petit peu plus performant. Donc honnêtement, au niveau d'un code comme celui-ci, c'est voilà, c'est pas monstrueux les performances qu'on va gagner. Honnêtement, vous les verrez absolument pas. Mais voilà, essayez de garder quand même à l'esprit que quand vous faites du développement, on essaie d'optimiser le code, voilà, dès que possible, c'est pas plus mal. La bonne nouvelle, c'est que vous avez maintenant désormais à votre disposition, eh bien, tous les éléments pour réaliser le jeu. À part peut-être un petit détail, mais je vous invite quand même à réfléchir maintenant, eh bien, au reste du code pour réaliser l'application Le Nombre Mystère. Donc, mettez sur pause, réfléchissez un petit peu à l'algorithme qu'il va falloir mettre en place, et dès que vous pensez avoir la solution, eh bien, revenez et remettez sur play. Alors, il va falloir être capable déjà de comparer la valeur qui a été saisie par l'utilisateur à la valeur aléatoire qui a été générée par l'application. Donc, on va utiliser une boucle et on va faire un while picnum différent ou égal de random. Donc tant que cette condition n'est pas valable, on va rentrer dans cette boucle et si les deux chiffres sont égaux, eh bien on va sortir de la boucle. Donc l'élément qui vous manquait peut-être, c'est comment expliquer que c'est une valeur qui est différente et non pas égale. Eh bien, différent, la syntaxe en C#, c'est ce point d'exclamation égal. Donc une fois que vous avez ça, on va avoir eh bien, du code qui est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire pour récupérer la valeur qui est saisie au clavier. Et si les deux valeurs sont égales, on va eh bien, être capable de sortir de cette boucle, et donc ça veut dire qu'on a gagné. Donc là, on va pouvoir rajouter un console.WriteLine en disant bravo, tu as gagné, tu as trouvé la valeur. Là où ça se complique un petit peu, c'est finalement le bloc qui est pour le moment en blanc, où vous allez proposer à l'utilisateur de l'aider en lui disant la valeur c'est plus ou c'est moins. Et bien là, on va disposer de quelque chose qui est familier pour vous, qu'on a vu dans le module 1, qui est l'instruction if-else, où là, on va disposer bien toujours du if, ou dans la condition, on va dire si la valeur picnum est plus grande que la valeur aléatoire. Eh bien, on va préciser à l'utilisateur, c'est moins. Et si on n'est pas dans ce bloc, eh bien, ça veut dire que la valeur sera plus. Et donc, on précise, console.WriteLine, c'est plus. Voilà, vous avez l'intégralité du code. Et maintenant, on va aller l'utiliser dans Visual Studio pour voir si on peut un petit peu l'optimiser. Mais en tout cas, là, vous avez quand même un code qui est tout à fait fonctionnel pour réaliser notre jeu. Alors, dans Visual Studio, soit bah, vous tapez directement les lignes de code, soit vous faites comme moi l'option un peu plus feignante où je vais directement copier le code qui a été généré dans les slides. Donc, j'ai juste rajouté eh bien, ma boucle à la suite du code qui avait été créé. Donc, j'ai bien ici ma condition. Voilà, tant que les deux ne sont pas, les deux valeurs ne sont pas égales, je reste dans cette boucle-là. Et si les deux valeurs sont égales, eh bien, je sors de la boucle. Il y a une faute de frappe. Et on a trouvé le nombre. Donc, on peut exécuter ce code-là et voir si ça fonctionne. Alors, on va mettre 10. Il me dit que c'est moins. On va mettre 5. Ah, j'ai trouvé et je suis sorti tout de suite. Alors, je suis sorti tout de suite car jusqu'à maintenant, j'utilisais effectivement des points d'arrêt. Mais n'oubliez pas que eh bien, dès que la fin du programme intervient, ça termine ma fenêtre console. Donc, il faut, dans la mesure du possible, ne pas oublier de rajouter le readKey qu'on avait vu dans le module 1 qui va bloquer la fermeture de l'invite de commande. Donc je le refais. Donc 10, il me dit que c'est plus, 15, il me dit que c'est plus, 18, 17, j'ai pas de chance, 16. Voilà, j'ai trouvé le nombre 16 et donc je peux enfin réappuyer pour donner une saisie au clavier pour la partie readKey, donc qui me ferme bien mon invite de commande. Alors on a un code qui est complètement fonctionnel, on a réalisé notre application, félicitations. Maintenant, on va quand même regarder si on ne peut pas un tout petit peu optimiser ce code. Et si on le regarde de plus près, alors je vais un tout petit peu, voilà, diminuer la police, on voit qu'il y a certains morceaux, certains blocs de code qui se ressemblent pas mal. Alors, ce qui serait bien, c'est d'éviter de réécrire plusieurs fois le même code à différents endroits, vu qu'on a exactement la même philosophie et le même algorithme à différents endroits, et de pouvoir eh bien, en profiter pour faire ce qu'on appelle du refactoring, c'est-à-dire en profiter pour prendre ce bloc et de le mettre dans une méthode qu'on va pouvoir réutiliser. Alors vous avez vu comment consommer des méthodes jusqu'à maintenant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de créer votre première méthode et de la réutiliser dans ce code. Alors vous êtes ici dans une classe. Je reviendrai tout à l'heure sur le concept de classe. Mais finalement, cette classe programme, elle contient une seule méthode qui s'appelle main, qui est votre point d'entrée. Maintenant, je vous propose de rajouter. Donc vous pouvez comme ça utiliser le petit plus et le petit moins pour voir la méthode en question. Vous pouvez même maintenant rajouter du code derrière. Ça n'enlève absolument pas le code que vous avez saisi. Ça permet simplement d'être plus tranquille en termes de lisibilité. Et on va rajouter une nouvelle méthode. Donc on va utiliser exactement la même signature. On va faire statique. On va appeler notre méthode pick a number. Et ça va retourner un entier. Donc je ne lui mets pas d'argument. Et une méthode eh bien, va être déclarée de la même manière. C'est-à-dire on va positionner à l'intérieur de. Enfin, juste derrière la méthode en question, des accolades. Et à l'intérieur de ces accolades, on aura le code de notre méthode. Alors ici, pour le moment, il râle un petit peu. C'est pour ça que c'est en surligné rouge. Et il nous précise le chemin, les chemins de code ne retournent pas tous une valeur. Puisque quand on a une méthode qui retourne un entier, eh bien à un moment donné, il va falloir lui préciser qu'on retourne une valeur. Et on a un mot-clé pour retourner une valeur dans une méthode qui s'appelle return. Et si je retourne par exemple la valeur 42, voilà, j'aurai une méthode qui va retourner 42. Et vous voyez qu'il n'y a plus cette petite ligne rouge qui apparaît, donc la méthode est contente. Bon, ça veut pas, ça fait pas du tout ce qu'on souhaite à la base, mais c'est simplement pour vous expliquer comment retourner une valeur entière depuis la méthode pick a number. Maintenant, on va aller récupérer le code qui nous intéresse, celui qui est en double dans la méthode main. Alors, pour rappel, c'est celui-ci. Donc, je vais faire un copier. Le même code qu'on va retrouver là. Donc, ce n'est pas la peine de l'avoir deux fois. Et je vais le coller dans pick a number. Ça râle pour la même raison que tout à l'heure. Je n'ai pas de valeur de retour. Donc, j'utilise return. Et je vais retourner la variable pictNum, qui est une variable entière. Donc j'ai une méthode qui est complètement fonctionnelle. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller l'utiliser dans la fonction main principale. Donc je vais aller supprimer tout ce qui n'est plus nécessaire. Donc ce code-là n'est plus nécessaire. Et je vais directement affecter ma variable picNum au résultat de ma méthode picNumber. Et le tour est joué. Donc, on va recopier cette ligne et je vais la coller à cet endroit-là, vu que c'est le même code. Ça va être bien pratique. Donc, on a un code qui est plus synthétique et beaucoup plus lisible. Et donc, gardez à l'esprit que votre code, vous allez probablement à un moment donné le transférer peut-être à un autre développeur. Et donc, c'est important pour lui également que votre code soit plus lisible. Donc, on va lancer l'application. Et on va valider que le code se comporte exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc c'est moins, c'est plus, c'est plus, c'est plus. J'ai gagné, j'ai trouvé le nombre, c'était le nombre 9. Alors, maintenant qu'on a réalisé cette portion, je voulais juste vous montrer le débugage en mode pas à pas. Donc si je fais démarrer. Alors, jusqu'à maintenant, j'utilisais F10. Alors, sachez qu'il y a F10 et F11. F10 va permettre de faire un mode pas à pas en restant dans la même méthode tout le temps. Donc là, si je continue à faire F10, je vais pouvoir aller taper ma ligne 10 et on n'est pas rentré dans la méthode picANumber. Donc, F10, c'est ce qu'on appelle donc du pas à pas principal, donc on reste dans la méthode principale et on va exécuter le code dans cette méthode. Par contre, là je vais faire stop et je vais relancer mon application. Si vous voulez voir vraiment ce qui se passe de manière plus détaillée, vous avez la possibilité d'utiliser F11, qui est là, pardon, pas à pas détaillé, et là je vais rentrer dans la méthode. Donc si je rentre dans la méthode, voilà, là on voit bien le code qui va être exécuté, donc je peux rester toujours avec F10 ou F11, là donc je suis dans la même méthode, je reste dedans, 10, et on va exécuter en mode pas à pas tout ce qui s'est passé dans la méthode picANumber. Donc je vais continuer, là il va me retourner 10, et si je continue, eh bien je reviens sur ma ligne au départ, là où ma méthode a été appelée, picANumber. Et je vais pouvoir continuer comme ça l'exécution du code. Donc, assez pratique le mode pas à pas. Donc, faites attention entre l'utilisation de F10, F11. Sachez que F11, vous allez rentrer dans chacune des méthodes au fur et à mesure. F10, finalement, vous restez dans chacun des appels de la méthode principale, tout simplement. Juste un petit point sur les méthodes. Donc, les deux raisons principales pour lesquelles on va utiliser des méthodes, c'est la réutilisation. Donc, si vous avez du code en double, en triple ou en quadruple dans votre application, c'est intéressant plutôt que de le réécrire à chaque fois, bah, tout simplement d'encapsuler ce code dans une méthode et de réutiliser plutôt à la place la méthode dans le code principal de votre application. Donc, la réutilisation, c'est une raison principale. La deuxième raison, c'est tout simplement la clarification de votre code. Donc, si vous souhaitez bah, rendre votre code plus lisible, c'est important pour vous, mais c'est important également pour les développeurs qui vont prendre le relais sur votre application, ça peut arriver. Et bien, dans ces cas-là, on va essayer d'utiliser des noms de méthodes qui sont le plus explicites possible pour derrière, et bien, comprendre. Dès qu'on lit rapidement votre code, comprendre au moins la philosophie de votre application. Même si on ne rentre pas dans les détails de chaque ligne de code, on aura compris avec l'architecture de votre code assez rapidement comment est bâtie fonctionnellement l'application et à quoi elle sert. Donc, je vous propose maintenant eh bien, de faire ça. On va clarifier notre code, donc effectuer du refactoring pour le rendre tout simplement plus lisible. Dans la continuité de ce que je viens de faire avec picANumber, eh bien, je peux rajouter d'autres méthodes qui vont juste non pas me permettre de réutiliser du code, donc ça ne va pas vraiment optimiser mon code, mais ça va me permettre simplement bah, d'assurer une meilleure lisibilité. Donc, par exemple, je vais pouvoir ajouter deux méthodes. Une méthode qu'on va appeler uwin, donc toujours statique, void, car je retourne rien du tout, uwin, et qui va prendre en paramètre une valeur random. Donc j'ouvre les accolades et je les ferme, et à l'intérieur de cette méthode, je vais reprendre par exemple le code de mon console.writeLine, et à la place, eh bien, je vais le remplacer par la méthode uwin. Donc, on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose dans le sens où là, j'avais qu'une seule ligne. Donc, effectivement, en termes de réutilisation, on est proche du zéro. Mais, en revanche, ça peut avoir, au-delà de la démarche d'assurer de meilleure lisibilité, c'est surtout que demain, si je souhaite bien rajouter d'autres éléments quand j'ai gagné, par exemple changer la couleur du texte ou rajouter du son quand j'ai gagné, eh bien, je saurai directement que c'est dans cette méthode que je vais pouvoir aller rajouter le code nécessaire pour rajouter ces fonctionnalités. Et ensuite, on va rajouter également une méthode nouvelle partie. Va prendre également en argument un entier qui s'appelle random et qui va retourner rien, donc un void. Et je vais prendre après bah, pratiquement l'intégralité de mon code, sauf la valeur qui a été générée au départ. Donc ça, c'est correct. Et nouvelle partie, random. Donc là, bah, quand je rentre dans mon code, je comprends assez vite que bien dans la partie main, donc dans mon point d'entrée, je vais générer un nombre aléatoire, je vais créer une nouvelle partie, et dès que j'ai gagné, je rentre dans une méthode qui s'appelle uwin. Donc tout de suite, on a une lisibilité de code qui est assurée. Et n'importe quel développeur qui va reprendre derrière ce code va comprendre assez vite ce que je souhaite faire. Alors on va démarrer quand même pour voir si l'application reste fonctionnelle, si je ne me suis pas trompé quelque part. On n'est pas à l'abri. Donc 10, c'est plus 17, 18, j'ai trouvé le nombre. Alors il y a un point que je n'ai pas validé et que je vais revalider avec vous. C'est si je me trompe, si je mets test, voilà, oups, il ne s'agit pas d'un nombre, essaye encore. Voilà, donc ça marche bien. Voilà, j'ai pas réussi à faire planter l'application, ça ne crache pas. Donc ça a l'air d'être plutôt fonctionnel et sans bug, ce qui est plutôt rassurant. Et vous avez réussi votre première application, le nombre mystère en mode console. Donc merci à vous, félicitations. Et avant de passer au module suivant, je vous avais promis que je vous expliquerais à quoi correspondait une classe et un objet. Et donc on va prendre un petit peu de temps pour expliquer ça dans cette fin de module numéro 2, juste avant de faire une petite pause. Donc, chose promise, chose due, je vais essayer de vous présenter ce que c'est qu'un langage orienté objet et puis la petite définition qui va bien pour essayer de vous faire comprendre la différence entre une classe et un objet. Donc, on parle de langage orienté objet, c'est vrai pour le C#, mais c'est vrai également pour la plupart des langages du marché aujourd'hui. Donc, si vous travaillez demain avec du Java, de l'Objectif-C ou du C++, eh bien, vous retrouverez exactement la même philosophie. Donc, un langage orienté objet, comme son nom l'indique, va travailler avec des objets. Donc les objets, vous pouvez voir ça un petit peu comme des boîtes noires qui vont rassembler un certain nombre de fonctionnalités. Et bien votre application va travailler avec ces objets. Et vous allez voir que finalement, les objets travaillent en relation les uns avec les autres. Donc on a vu par exemple tout à l'heure que random était un objet qui permettait donc de rassembler l'ensemble des fonctionnalités qui sont liées et bien à la notion de création de code et de variables aléatoires. Alors, derrière un objet, ça peut représenter un concept, une idée, ou carrément une entité physique, une voiture, une personne. Donc, un objet, c'est ce concept, et la classe, c'est ce qui va permettre de définir notre objet. Donc, je reviens dessus dans un instant, mais en version simplifiée, une classe, ça va comporter des données, donc des variables, et des méthodes. Et vous avez déjà vu les deux, à la fois les variables et les méthodes. Donc, une classe permet simplement de définir et d'encapsuler ces deux termes, variables et méthodes. Donc, si je prends un exemple et que je crée une classe qui va s'appeler personne, donc dans ma classe personne, par exemple, je vais pouvoir définir deux variables, le nom de la personne et puis sa date de naissance. Donc, ça, ce sont mes données. Et derrière, je vais pouvoir également avoir par exemple une méthode qui va s'appeler getAge. Et en fonction de la date de naissance de cette personne-là, je vais gérer, je vais créer le code qui va bien pour retourner l'âge de la personne. Donc là, j'ai retourné 38 ans, mais comprenez bien que vous devez effectivement créer le code qui va bien à l'intérieur de cette méthode pour se baser sur la date de naissance de la personne et puis retourner l'âge qui va bien. Donc là, on a la méthode, mais ça pourrait être les méthodes. Donc c'est une définition, cette classe personne, où j'ai à la fois des données et des méthodes. Mais on voit bien que là, j'affecte absolument pas les données. Donc ce sont vraiment qu'une définition. Je n'ai fait que la déclaration des variables. Je ne fais pas d'affectation. Alors, pourquoi? Parce que là, j'ai parlé de la partie classe, qui est une définition. Donc classe, vous pouvez voir ça comme un modèle, comme un patron. On peut voir ça si vous préférez un petit peu la gastronomie ou plutôt la pâtisserie. Vous pouvez y voir ça, vous pouvez voir classe comme le moule d'un gâteau. Et après, il va falloir faire le gâteau. Donc avec le même moule, je vais pouvoir faire différents types de gâteaux. On est bien d'accord. Bon, eh bien, l'objet, ça va être ça, ça va être le gâteau final. C'est-à-dire que je vais pouvoir, à l'aide de cette classe, utiliser un opérateur qui s'appelle donc l'opérateur new, qu'on a vu, et qui va me permettre de créer un objet qui va être associé à cette classe. Donc, par exemple, si j'utilise ma classe personne, je vais pouvoir créer un objet qui s'appelle JS, pour Jean-Sébastien, qui est égal donc à new person. Donc, je crée ce qu'on appelle une nouvelle instance de classe, donc un objet. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir, sur cet objet, lui définir un nom. C'est Jean-Sébastien, donc là je fais une affectation. Je vais pouvoir lui affecter également une date de naissance. Donc voilà, le 29 juin 77, si vous voulez souhaiter mon anniversaire. Et je vais pouvoir après récupérer l'âge toujours sur cet objet. Donc là j'ai créé un objet JS en fonction de cette classe personne. Mais donc avec la même philosophie, je pourrais très bien créer, toujours en se basant sur la classe personne, un objet qui s'appelle Stéphanie, qui va avoir donc ses valeurs propres, et un objet Michel, qui va être effectivement toujours avec ses valeurs propres. Donc l'intérêt, c'est que à partir d'une même définition, je vais être capable de créer différents objets qui vont avoir donc des affectations de variables différentes. Et donc, quand je vais pouvoir appeler getAge sur chacun de ces objets, je vais avoir donc un âge différent, puisque l'objet en fait va être propre. C'est pour ça qu'on parle d'instance d'objet. J'ai créé trois instances d'objets différentes qui vont chacune me retourner du coup une valeur en termes d'âge qui va être celle que j'ai affectée à chaque objet. Donc on fait vraiment le distinguo entre classe qui est vraiment la définition et l'objet derrière que je vais vraiment utiliser dans mon code. Donc j'espère que ces informations vous ont un petit peu clarifié par rapport à ce que j'ai écrit préalablement dans mon code. Voilà, l'idée c'est vraiment que ce soit du bonus. Ces informations-là, vous allez les assimiler au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai essayé d'être le plus simpliste possible, j'espère, et de faire en sorte que vous compreniez ces éléments qui sont des éléments importants. Mais vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout tout de suite. Voilà, au fur et à mesure, ça va venir. Mais c'est des éléments très important dans un langage objet de comprendre la différence entre classe et objet. Eh bien, félicitations pour votre code et pour cette application qu'on vient de réaliser ensemble. Voilà, je vous donne rendez-vous dans le module 3 pour aller plus loin et puis créer la même application en mode fenêtré. Donc, on va rajouter des champs de saisie, des boutons. Voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu plus joli que l'application en mode console. Merci encore. Si vous avez des commentaires et des questions, eh bien, n'hésitez pas à aller me les poser sur Twitter, @dupuisjs. Ou si vous souhaitez contacter Michel Rousseau, c'est @rousseau_michel. Et je vous donne rendez-vous dans le module 3. À très bientôt. Merci beaucoup.